Chase you out of earth.
Il est 20h05 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Le retour après à peu près un mois sans émission, on s'en excuse, nous sommes étudiants, nous étions tous en période de révision, puis en période de partiel, c'était compliqué pour nous. Mais voilà, les vacances arrivent, on a tous un peu plus de temps, enfin tous, effectif quand même à peu près réduit ce soir. Mais on sera là les prochaines semaines évidemment pour vous proposer des émissions et pour que vous continuiez à suivre l'actualité sportive locale et internationale. Et quelqu'un qui sort de partiel, à côté de moi, c'est Paul. Salut Paul. Avec le micro, je t'en prie, vas-y.
C'est mieux. Voilà. Comment tu vas?
Bah moi, ça va très bien, toi.
Bah ça va très bien, comme tu l'as dit, fin de partiel, encore du sport et encore du sport, encore et du sport, encore toujours.
Toujours.
Donc c'est super.
Voilà, tu nous parleras un peu de Ligue 1 et de cyclisme ce soir. Et pour nous accompagner, pour renforcer cet effectif réduit, on a Alex qui est de retour avec nous ce soir. Salut Alex, comment ça va?
Ça va bien et toi, Faustin?
Bah, ça va toujours très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant que tu as écrit la radio?
Je suis en école de journalisme, du côté de Lyon, au CFJ. Et du coup, voilà, j'étais dans le coin, donc je me suis dit pourquoi pas passer une tête. Voilà. Ça fait un peu de renfort.
Tout à fait.
J'ai l'impression que j'avais un peu besoin, là.
Ouais, voilà. Tu fais décimer. Mission
beaucoup,
à deux.
Beaucoup de blessures.
C'est ça, beaucoup de blessures à Matteo et à Cannes. Follin est à l'étranger, je ne sais plus quel pays, mais il n'est pas sur Angers. Et Robin doit être en stage quelque part dans la France, j'imagine. Ce qui fait qu'on a un effectif assez réduit ce soir. Au programme, un programme assez léger finalement. On reviendra sur les actualités locales, les fins de saison de nos différents clubs angevins. On parlera de la Ligue 1, puis du cyclisme, et enfin on fera un petit point sur la NBA avec les finales de conférence et notre Français évidemment Victor Wembanyama qui brille chaque jour en NBA. On va commencer donc sans plus tarder avec l'actualité locale de l'UFAB qui a réussi à se sauver de la relégation, pourtant mal embarqué dans le play-down avec deux défaites contre l'ASVEL et Toulouse. La victoire contre Roche-Vendée a permis de souffler un peu. La phase retour s'est bien mieux passée, tout d'abord avec la victoire large 93-69 contre Toulouse, assurant le maintien, et elles finissent en beauté en remportant le derby à Jambouin contre Roche-Vendée 88-67. Scellant le sort des Lyonnaises, les Angevines se sont tout de même fait peur cette saison, finissant dernière de phase régulière avec seulement 5 victoires. Un effectif qui a évolué au cours de la saison, ça n'a pas aidé, il faudra retrouver une sorte de stabilité pour partir sur de bonnes bases la saison prochaine. Est-ce que Alex, je vais vous demander un peu ton avis sur chaque saison angevine, parce que t'as pas été là pour nous le donner tout au long de ces saisons.
Mais je suivais de loin.
J'imagine. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette saison de l'UFAB?
Déjà sur tous les clubs angevins, je pense que le bilan est pas hyper reluisant, mais
surtout sur le basket.
Ouais, c'est ça. Sur l'UFAB. Je crois qu'elles avaient quand même bien démarré l'année. Ouais. Je crois que ça avait fait trois victoires.
Il y avait une victoire contre Basketland en plus.
C'est ça, ouais. C'est ça. Elles avaient très bien démarré l'année. Et puis au final du temps, je regardais les résultats et je voyais que des défaites. Donc ouais, c'était un peu déprimant. À noter que c'est leur premier play-down depuis leur remontée.
C'est
elles
n'ont
fait que des play-offs. Donc ça doit faire 3-4 ans qu'elles sont montées.
Au moins, ouais. Et sur la radio, c'est que des play-offs.
C'est exactement, et du coup effectivement c'est un petit peu dommage de les voir en play-down. Maintenant elles ont fait l'essentiel. Je pense que le rival principal c'était Roche-Vendée, je crois qu'il va descendre.
Ouais, c'est ça.
Et elles ont fait le taf, et donc toujours avec le bon travail d'Aurélie Bonan, qu'on a reçu pas mal de fois dans l'émission et qui fait toujours qui est toujours la coach, le capitaine de ce bateau, et
ouais,
qui gère très bien je pense son effectif depuis tant d'années. Donc voilà, au moins l'essentiel est obtenu, et après à voir pour la suite.
Voilà, voir ce qui va se passer cet été au niveau de l'effectif. On peut s'attendre quand même à quelques mouvements, mais le plus important c'est que ça bouge pas trop pendant la saison. Ce qui s'est passé un peu cette année, et je pense que c'est ça qui a eu qui a pas réussi à créer cette dynamique au sein du groupe, et elles ont pas pu enchaîner les victoires tout simplement, sachant que en parallèle c'est Basketland qui remporte le championnat de France, l'équipe de Leïla Lacan qu'on avait aussi reçu,
on a reçu du beau monde,
et oui évidemment, qui joue aussi en WNBA, qui va sûrement la retrouver cet été, donc voilà, Leïla Lacan, on lui passe le bonjour évidemment.
Elle nous écoute forcément
sans doute. Voilà pour l'UFAB. Le AB maintenant, ils ont eux aussi fini leur saison sur une victoire, 99-95 contre Saint-Villiers. Au final, ça reste une saison assez décevante parce qu'ils étaient très proches de l'ascension à la poule haute toute la première partie de saison. Ils n'y sont finalement pas allés, ils finissent dans le milieu tableau de la poule basse alors qu'ils partaient avec beaucoup de points d'avance. Il y a sûrement eu un relâchement et c'est bien dommage. On va là aussi espérer mieux pour la saison prochaine avec au moins une poule haute. Là aussi Alex, j'imagine que tu en tires à peu près le même bilan, assez déçu.
Ouais, assez déçu parce que ça fait quand même là pour le coup quelques années que le AB végète un peu en N1 sans vraiment l'ambition de remonter.
Ouais, c'est ça.
Donc après à voir comment ça va se passer pour la suite, mais pour l'instant j'ai l'impression que ils se contentent de la N1. Après voilà, à voir. C'est dommage parce que c'était un club qui avait quand même pas mal d'ambition.
Ouais,
champion de Leaders Cup Pro B peut-être trois
saisons.
Donc voilà, mais bon, écoute, pas d'ambition cette année, mais peut-être l'année prochaine.
C'est ça, on l'espère. On avait reçu, c'était il y a deux ans aussi, là, Matteo Valton qui nous disait que le AB cherchait une accession en poule haute. C'était il y a deux saisons. C'était pas le cas cette saison non plus. On espère qu'il y aura au moins cet objectif-là qui sera rempli la saison prochaine. Du côté de Cholet, c'est peut-être la meilleure saison pour le basket, parce qu'ils signent une très bonne fin de saison avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs, ce qui leur a permis de finir la saison régulière à la 5e place avec un bilan de 19 victoires et 11 défaites. Pour le premier tour des playoffs, ils affrontent l'Asvel qui a donc fini 4e avec seulement une victoire de plus que les Choletais. Les deux équipes se sont rencontrées 3 fois cette saison et c'est Cholet qui en est toujours sorti victorieux. On peut donc espérer voir Cholet vainqueur après ce premier tour de playoffs. Là aussi, une bonne saison de Cholet qui était assez en dents de scie, mais qui finit très très bien.
Bah, c'est un club qui est habitué à justement les saisons dents de scie.
Ouais.
Et tant mieux pour eux. C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même un club important du département, donc on compte sur eux pour faire briller un peu le 49. Mm. Après, j'ai peut-être un peu moins suivi que les deux autres, ouais. Cholet, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'aller en play-off pour un club comme ça. Quoi.
Tout à fait, on suivra évidemment le jeune Aaron Towonansi,
oui,
espoir du basket français, ouais. qui ne finit pas de nous surprendre. On verra comment il progresse, s'il reste à Cholet déjà, ce qu'on espère évidemment. Une équipe qui va aussi très mal, c'est le SCO Handball.
Oui.
Fallait forcément y arriver, hein. Une fois n'est pas coutume, le SCO Handball finit dernier de Pro League, cette fois avec 12 points. Ils sont devancés par Massy et c'est 15 points, même si on a vu des améliorations, j'ai envie de dire, par rapport à la saison dernière, notamment en termes de points. C'est là qu'on voit les améliorations. Mais ça ne suffit toujours pas pour se maintenir dans l'élite. Va maintenant falloir, j'ai pas vu l'info passer si comme les deux dernières saisons le SCO sera maintenu administrativement,
ouais.
Ou bien la relégation sera bel et bien actée. Là aussi, ça. J'imagine que l'handball, ton sport de prédilection,
oui.
T'as dû suivre un peu cette saison du SCO.
Ouais,
handball.
J'ai suivi, c'est une saison qui ressemble à la précédente, qui ressemblait elle-même à la précédente.
Ouais.
Donc en fait, c'est une boucle sans fin. Et comme tu disais, aujourd'hui, on en est à espérer qu'il y a un repêchage comme les deux autres années précédentes et comme quelques années aussi auparavant. Saison où on y a cru un peu plus longtemps. Donc au début, ça s'est très bien passé, le début de saison. Après, ça a enchaîné les défaites. Et puis, on y a recru sur la fin parce qu'on n'était pas si largué que ça au classement. Ils ont perdu des matchs. Des matchs hyper importants face à des adversaires directs des rencontres aussi qu'ils ont pour regarder un peu les physionomies match qu'ils menaient et puis finalement ils finissent par s'écrouler et perdre. Donc voilà, là apparemment j'ai entendu des bons échos par contre sur le coach,
ouais.
Qui était pour le coup un vrai bon coach. Malheureusement, ça n'a pas suffi cette année.
Est-ce qu'il faudrait pas une bonne relégation pour un peu remettre les choses en place,
je sais pas.
Pour mieux préparer la suite.
C'est compliqué parce qu'on a quand même le soutien du SCO, du SCO Foot. Mmh. Donc j'imagine que le SCO Foot ne s'attend pas à être en N1 après avoir, parce que c'est quand même, il y a, pour expliquer un peu au handball, il y a plusieurs échelles en N1. Il y a vraiment une poule, on va dire, haute qui veut vraiment accéder à la Pro League et après il y a le reste. Donc à voir, mais de toute façon, pour l'instant, ils sont derniers, comme les trois saisons précédentes. Donc on va faire avec, et puis on verra ce que ça se passe au niveau des bureaux. Et malheureusement, le SCO Handball ne dépend
plus de lui.
C'est ça, comme chaque année.
Ouais,
donc c'est quand même dommage.
On suivra ce dossier pendant l'été, voir si le SCO Handball restera en Pro League ou non. Du côté du SCO Rugby maintenant, les SCOistes finissent premier de leur poule de Fédéral 3 avec un total de 72 points, devançant Orsay avec leurs 68 points. En 32e de finale, les Angevins ont commencé par l'emporter face à Boulogne-Billancourt et doivent maintenant faire face à l'équipe de Paris 15. Le match aller s'est bouclé sur le score de 23 à 19 pour Paris et le match retour a lieu le 24 mai à 15h à Angers pour décrocher une place en 8e de finale. Là aussi, très belle saison du SCO Rugby, on en a l'habitude.
Là, pour le coup, j'ai beaucoup moins suivi.
Okay.
Mais tu disais, ils sont toujours en lice pour la montée.
Ouais, c'est ça.
Ils cherchent depuis des années, pareil.
Ouais, ça, il semble que la saison dernière, c'était en 32e qui s'était arrêté, donc
c'est
le premier tour de play-off.
Là, ils ont beaucoup d'ambition depuis pas mal de temps, ouais.
Ça, donc là, ils finissent premier de leur poule, ils ont déjà passé le 32e, ils ont perdu que de 4 points le match aller à Paris. Donc ils ont l'avantage du terrain en jouant à Angers le match retour, c'est ce week-end, dimanche à 15h. Faudra être présent du côté de la Baumette. pour mettre de la voix, espérer voir nos Angevins passer en huitième. Pour finir, on va parler du SCO Foot. Oui. Voilà, peut-être là on va passer le plus de temps. On passera ensuite à la Ligue 1, parce que le SCO a donc fini 13e de Ligue 1. Une saison faite de rebondissements et un effectif qui a beaucoup changé là aussi. Je pense qu'on a globalement été agréablement surpris du niveau de jeu proposé par Angers, surtout une fois qu'Esteban Le Poll est parti, donc dès le début de saison. Qu'est-ce qu'on a pensé autour de la table? Je vais commencer par toi, peut-être Paul, qui a pas beaucoup parlé depuis le début.
Je pense que le mot d'ordre, comme tu l'as dit, c'est surpris. C'est surpris d'une saison où tu finis quand même 13e avec le pire budget de Ligue 1, où tu perds ton numéro 9 à quoi, une semaine de la fin du mercato, ouais. Où tu peux même pas recruter parce que bah financièrement, ce n'est pas possible. Donc au final, c'est surpris de l'effectif, surpris quand même d'avoir réussi à gratter des points par-ci par-là après le départ de Chérif et de Abdelli. Donc non, c'est une bonne saison dans l'ensemble par rapport aux moyens. Et ben on espère qu'avec les moyens du coup qui ont été injectés avec les ventes de Abdelli, de Le Poll, de Peters et je me suis trompé, j'ai confondu les deux. Excusez-moi. Et du coup avec ces ventes-là, on espère que ça permettra peut-être d'acheter de nouveaux joueurs ou au moins d'avoir un peu plus de fonds.
C'est ça, parce qu'on a vu les prêts aussi de Banco Van Den Boomen à la mi-saison, qui a fait beaucoup de bien, de Koyalipu aussi, qui a été buteur sur les deux derniers matchs du SCO, qui ont fait beaucoup de bien. Toi Alex, qui a suivi aussi cette saison, qui suit la Ligue 1, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison du SCO?
C'est un peu le troisième exploit de suite de Alexandre Dujeu, quoi, parce que la montée, on s'y attendait pas, ils sont montés. Le maintien l'année dernière, on s'y attendait pas, ils se sont maintenus. Et cette année, c'était exactement pareil, voire pire, puisque tu perds Esteban Le Poll. Et tu te retrouves avec deux jeunes du centre de formation qui vont être en numéro 9. En plus, tu perds Chérif à l'hiver, perds Abdelli qui est ton meilleur joueur. Et donc, on se demande, et c'est le miracle un peu permanent, quoi. C'est-à-dire qu'on se demande comment on a fait pour en arriver là, mais Alexandre Dujeu a proposé du jeu, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un jeu mot qu'on a fait un milliard de fois dans cette émission. Non, mais c'est ça. Il a proposé une tactique qui a permis au SCO de gratter des points à droite à gauche. Je sais qu'il avait été aussi plébiscité par Roberto De Zerbi, donc c'est pas n'importe qui quand ils avaient joué l'OM. Pour le coup, ouais, c'est juste un excellent coach qui a réussi à sublimer son équipe. Et pourtant, il n'avait pas du tout les joueurs pour. Peut-être qu'après, on reviendra sur d'autres joueurs individuels. Mais moi, je pense, il y a un recrutement, moi, je trouve, qui a fait beaucoup de bien. C'est Amin Zbaï. Ouais. Parce que, il est arrivé, alors, il n'a pas d'énormes statistiques, mais il est arrivé, donc, après le mercato, je crois.
Il est arrivé en octobre. Il est arrivé à la trêve internationale en octobre.
Exactement. Et du coup, moi, je trouve que c'est un joueur qui a apporté un truc que, dans l'effectif, ce qu'on n'avait pas.
Parce qu'il n'y avait pas de créateur.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Il manquait un ailier créatif qui mettait de la vitesse et qui amenait du jeu dans l'axe ou à l'extérieur quand il avait la balle.
C'est ça, de la percussion, quelqu'un qui peut faire bouger un petit peu, enfin animer l'attaque tout simplement.
Tout à fait, ouais.
Et il a été ce joueur-là, et même si donc ça n'a pas été récompensé par les stats, je crois qu'il finit à 2 buts de passe-dé, un truc comme ça.
Ouais, 3 buts, un truc comme ça, oui, je crois, avec la Coupe de France.
Et qui remet un but d'ailleurs très beau ce week-end contre Brest. Mais voilà, donc moi je trouve que ça a été vraiment la bonne pioche au bon moment pour changer un peu la face de cette équipe. Et puis tu vois, par exemple, on parlait de Marseille, ça rentrait au Vélodrome, qui est très important, qui chope un penalty, je crois.
Ouais.
Donc moi je trouve que ça a été un peu la, si je dois retenir un joueur, c'est un peu ce joueur là un peu game changer, je trouve.
Ouais, on peut parler aussi d'Hervé Coffi
surtout,
qui était aussi, j'avais oublié, mais
arrivé en prêt de Lens au début de la saison, qui nous a fait une saison magnifique.
Et puis moi j'étais carrément pessimiste sur moi je crois qu'on avait parlé
à l'été, tu nous disais
moi j'étais pas du tout emballé parce que
il avait pas fait une bonne saison à Lens,
non, pas du tout. Il avait été propulsé parce que ça, ils avaient changé plusieurs fois de gardien à Lens et il avait pas été bon. Donc quand j'y arrive, et que surtout qu'on avait Fofana qui était nominé pareil dans les meilleurs gardiens, tu te dis en fait on va être dans la merde, et au final c'est le meilleur gardien de Ligue 1, plein de statistiques,
sur les stats, c'était fou.
Pas pour l'UNFP, mais en tout cas pour les statistiques, il a été impérial, le note l'équipe pareil, enfin il était monstrueux, et oui, c'est clairement lui qui nous offre aussi ce maintien, enfin franchement, on va pas se mentir, quand t'as un gardien comme ça qui t'enlève autant de buts, tu gagnes des points et tu te maintiens, quoi.
Ouais, ce qu'il a pu même, j'ai l'impression qu'il a porté quand même une certaine énergie. Moi, ce que je retiens, c'était le premier match du SCO que je suis allé voir, c'était contre le Paris FC, où victoire, il envoie quatre saltos fin du match. Ok, le mec il est en place, il est juste là pour jouer, pour kiffer, il devait mettre une bonne ambiance dans le groupe, dans le vestiaire. Donc ouais, c'est clairement un facteur extrêmement important pour le SCO. Après, c'est pas sûr de pouvoir le garder parce que c'était un prêt du coup.
Ouais, il va repartir.
L'option d'achat, je sais même pas s'il y en avait une.
Il n'y en avait pas.
Donc, il va repartir à Lens.
Il faut trouver quelqu'un maintenant.
C'est ça, surtout qu'il a pris du coup de la valeur, évidemment, en jouant là. Le SCO pourra pas le racheter à moins de mettre toutes ses économies un
ça
peu.
7 millions, je pense, du coup.
Ouais, c'est ça. Moins. Est-ce que ce sera vraiment rentable? Est-ce que le SCO va se positionner dessus?
Peut-être demander un prêt et si y a l'option d'achat sur celle-ci.
Ah, parce qu'ils ont quand même Lens à Risser. Mmh. Oui. Donc en fait, voir si.
Dans ça, Lens va le vendre, à mon avis. Quand même.
Bah, c'est
ils vont pas le garder,
Bah, ça dépend.
Jeune et même. Nommé meilleur gardien de Ligue 1, même si bon, tu files quasiment, on va dire que ça comme ça. Mais quand même, ils ont le meilleur gardien de Ligue 1 jeune, on va dire ça comme ça. À part si Risser est vendu à un très bon prix qui pourrait l'être cet été, peut-être qu'ils peuvent garder Kofi, mais je pense pas.
Non.
Ouais, ça dépend de s'il le garde, Kofi à la limite, je sais pas, peut-être. Mais bon, je pense pas quand même. Parce que là, le SCO ne fera pas deux fois ce même exploit. Mais alors, pour le coup, Ezinga, donc le numéro 2.
Ouais.
Il perd la séance au tir au but en Coupe de France, je crois.
Ouais, Ezinga, c'est compliqué quand même, souvent les entrées ou les entrées quand il joue en Coupe de France.
Ça a pas été dingue, donc je pense qu'il va falloir trouver.
Faire un peu de.
C'est Laurent Boissier, je crois, le directeur sportif. Mmh. Il va falloir qu'il nous trouve la prochaine pépite pour le poste de gardien.
On verra bien ça. Il y a d'autres postes aussi à renforcer parce que beaucoup de joueurs étaient arrivés en prêt. J'en parlais tout à l'heure. Vanden Boomen, Koyalipu. C'est deux joueurs très importants au milieu de terrain, sachant que Capel s'en va. On a perdu Abdelli. Donc ça fait des trous là aussi. Le SCO va devoir se pencher. Est-ce que Vanden Boomen peut être un joueur rapporté, acheté? Le prix
est. Je sais pas. C'est trop cher pour le SCO. Je pense. Là, faut vraiment. On est le plus petit budget de Ligue 1. Et là, je pense que c'est que des. Et puis on l'a vu cet été, c'est que des prêts ou des gens qui sont en contrat libre. Donc ça va falloir bien identifier. Et puis on parle du mercato. Il y a un autre point important. C'est justement on en parlait à Alexandre Dujeu.
Oui.
S'il se fait acheter par un
Lille ou quelque chose comme ça. Ouais, ça en parlait à un moment. Lille,
Lorient,
Nice.
J'en sais rien. Mmh.
C'est clair.
Ça parlait de Nice aussi, ouais. Donc ça va être un vrai enjeu parce que sans lui, honnêtement, je donne pas cher de la peau du SCO.
Non, c'est clair. On verra bien. En tout cas, cet été, ça va nous tenir en haleine.
Après, Guardiola arrête avec City, donc il y a peut-être moyen de se positionner.
Je pense que c'est aussi sexy que City Angers. Je pense que ça va
faire pour lui. C'est ça, je pense. Il faut un challenge à un moment donné. Il a connu les meilleurs clubs, ça va. Il peut aller à Raymond Coppa.
Et puis, elle a des contacts, il nous amène des bons joueurs en fin de contrat.
Ouais, voilà.
Lewandowski part de Barcelone.
Voilà.
Il y a des choses à faire du côté.
Voilà.
On verra bien ce qui se passe. Un nouveau chauve sur le banc angevin. On dit pas non.
Ouais, voilà.
C'est en tout cas le mercato angevin comme tous les étés qui va nous tenir en haleine. Moi, j'espère quand même voir des joueurs arriver achetés pour construire quelque chose un peu de plus durable. Même si ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être parier sur des jeunes pépites.
Les droits TV sont toujours aussi catastrophiques.
Ouais, malheureusement, c'est ça qui est compliqué. Le SCO n'a pas les fonds. Ils étaient sous tutelle, c'est pas le terme, mais la masse salariale était encadrée.
Ouais, voilà c'est ça.
Au début de la saison, on va voir ce que ça va donner cette année avec quand même les ventes de Chérif, Le Paul, Abdelli.
Ouais,
ça devrait être
pareil,
à peu près
Capel avait peut-être un gros salaire aussi, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Avec l'ancienneté.
On verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais on suivra évidemment ça tout l'été. Avant de passer à la Ligue 1, je vais vous proposer une petite pause musicale. Et on va s'écouter Jungle Jack et Lesram sur la prod de Hologram Low avec Hustle Hard.
Panam, ok, banal. Si je m'accrochais ta mal, faudrait un projet Yamal à la Hustle Hard. Je m'en rappelle, j'avais l'iPod, Shuffle 4. J'écoutais Purple Sweat. Aujourd'hui, je suis sur une prod de l'eau avec le poteau Jungle Jack. Les jeunes gueules, chaque fois que les comptes dépassent, faut envoyer en foiré. Le monde est vaste, je pense aux mômes qu'on déplace de foyer en foyer. C'est trop malvado, Narvalo. On a emballé des carrés blancs, carrément, c'est pas des marshmallows. Je me ferai fumer comme l'inventeur du moteur qui marche à l'eau. Pendant qu'Yves Rocher fait la chasse au cachalot. Turbulent, depuis la maternelle, les gars. Logique que je clip avec du matériel pétard. Rien à foutre, c'est pas mon paternel, l'état. C'est bien d'avoir une arme, mais ton arme est-elle létale? réapplique. J'étais radique, philosophe au microphone comme Héraclite. Je suis inspiré de Brooklyn et Rakim. Ah ouais. Si tu me vois en jean, c'est que je vais voir une raclée ou je vais visser de trois clean.
Yes, hey. Gros cafard, dernière évolution. J'arrête pas de trouver des failles et des solutions. J'arrive comme Vital, Vitium, avec du manioc et du lithium. Pour le minimum, Vital, je missionne. Hey. J'suis toujours anticipé pour pas me retrouver dans la mendicité. Le manque d'argent me faisait sortir de mon lit plus rapidement que l'envie de pisser. Crimland, le Samsara. Soit on s'en sort ensemble, soit on va piner ta mams là-bas. Mon son tourne jusqu'à Marseille, clinique des Trois Lucs. Flou en continu comme un aqueduc. XX, ici y'a pas d'alien mais ça t'abducte. Dans nos têtes, c'est chaotique. Trop de textes et de narcotiques. Cette ville m'a rendu paro, claustrophobe et alcoolique. Certains poteaux sont devenus chauves comme John Malkovich. La ligne transforme ton corps en masse inerte. Sauter la barrière du voisin, au final son herbe est pas si verte. Architecte avec le cahier dream, crase la tête de ses carriéristes. Que de la cali, pas de marketing. Hey, quartier S, j'suis l'archétype. Espèce endémique, en vêtements techniques. J'me faisais courser par les cops, avec des noirs et des arabes. C'est mieux que se faire courser par des profs dans les couloirs pétaram. Ces chiens nous ont fait trop de mal, c'est irréparable. Faut pas qu'ils chialent quand ça va partir en pétarade. Architecte avec le cahier dream.
C'est trop malvado, narvalo.
Vital, vitium.
Me fait fumer comme l'inventeur du moteur qui marche à l'eau.
Skip, je suis respectable, maintenant que j'ai des cabis. Fume du cannabis jusqu'en Espagne. La vie ça va vite, t'auras eu Jack Fit. Les SRAM, avant j'étais raciste.
Mais l'agent était raciste, il m'a trouvé détestable. Quand je faisais métal, quand dans une allemande j'étais assis sur un siège éjectable.
Heureusement que le hashish était indétectable. Je fais passer des tas de trucs par le bureau postal. Cette merde c'est pas du cinoche, tu me verras jamais avec une pute aux Oscars.
Ouais ouais, les Kennedy cherchent le bourreau d'Oswald. Bien caché dans le bureau ovale. Je me questionne, ils nous espionnent sur nos portables.
Depuis les fax,
ils ont mis des taxes sur l'eau potable.
Du coup la picole et le Z, la nique les organes. Je prends mes sous comme Nikola Tesla sous JP Morgan. En bas de chez moi ça se met sous JB Morgan.
Complètement givré, une lame gilette sous un gilet Jordan.
Architecte avec le cahier dream.
C'est trop malvado, narvalo.
Et voilà, c'était Hustle A sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. On est reparti pour cette deuxième partie d'émission et on va partir avec toi, Paul, sur de la Ligue 1 parce que la saison est terminée.
Et oui, c'était la dernière journée, elle fut folle. Déjà au début de la soirée, ils étaient 5 pour 4 places européennes. À Marseille, l'OM recevait Rennes pour un véritable choc pour les places européennes. Les Bretons avaient directement leur destin entre les mains, mais ils ont craqué au vélodrome en fusion, dans un vélodrome en fusion. Victoire marseillaise 3 buts à 1. Grâce à ce succès, l'Olympique de Marseille décroche son ticket pour la Ligue Europa, tandis que Rennes voit la Ligue des Champions lui échapper et finit 6e. Dans le même temps, Lille et Lyon se disputaient à distance la 3e place, synonyme de Ligue des Champions. Lille a chuté à domicile face à Auxerre 2 buts à 0, une défaite qui aurait pu coûter cher, mais Lyon a été balayé sur sa pelouse par Lens, qui a 8 à 0. Résultat, Lille conserve sa 3e place et Lyon reste 4e. Et il y a eu le match le plus fou de la soirée. Monaco menait 4 buts à 1 face à Strasbourg à la 55e, mais les Monégasques se sont totalement effondrés, encaissant 4 buts en 35 minutes. Victoire incroyable de Strasbourg, 5 buts à 4. Monaco termine 7e et doit désormais espérer un coup de pouce de la Coupe de France et une victoire de Lens contre Nice pour jouer l'Europe la saison prochaine. Le suspense était également total pour le maintien. Le Havre a assuré l'essentiel en s'imposant 2 buts à 0 à Lorient. Mission accomplie également du coup pour Auxerre qui s'est imposé 2 buts à 0 à Lille. Et malheureusement, c'est Nice qui en revanche a laissé filer sa chance. Tenu en échec 0-0 par Metz, les Aiglons devront passer par les barrages face à Saint-Etienne les 26 et 29 mai pour tenter de rester en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain était déjà champion de France et a terminé sa saison par une défaite face au Paris FC de buts à 1. Une rencontre marquée aussi par la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé à moins de 2 semaines de la finale européenne contre Arsenal. À Brest, le SCO d'Angers a décroché un match nul, un but partout grâce à une superbe réalisation d'Amin Zbaï. Enfin, la soirée s'est terminée sur une confusion à Nantes. Le match face à Toulouse a été interrompu après un envahissement de terrain dès la 22e minute. Une triste conclusion pour les Canaries, officiellement relégués en Ligue 2. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette, cette fin de journée, ces problèmes, l'Europe, le maintien, mais c'était quand même, je trouve, assez fou.
Ouais, c'était assez dingue qu'il y ait encore autant d'enjeux, un peu comme chaque saison sur le dernier multiplex. Très déçu quand même pour Lyon. de perdre comme ça 4-0 avec des performances catastrophiques de certains joueurs. Alors que tu jouais à une finale et que tu pouvais, même avec un nul, du coup, avec le résultat de Lille, aller être troisième et te rassurer. Et ça n'a pas été fait, donc un peu déçu quand même du résultat de Lyon.
Ouais, mais par rapport à la saison, quand même, Lyon.
C'est ça, mais moi, je l'ai quand même un peu mauvaise parce que Fonseca, il est habitué quand même à faire des fins de saison quand il était à Lille, notamment, et même l'année dernière à Lyon, où c'est un peu en autre boudin et que t'arrives pas à obtenir tes objectifs. Donc, mais après, oui, forcément, si on fait le bilan de la saison, Lyon est un peu, pas miraculé, mais en tout cas, a fait du très bon boulot pour être là où il est, avec très peu de moyens, donc il faut continuer comme ça. Et après, pour le reste, Marseille qui réagit de façon assez, à la fois surprenante et à la fois, on les attendait là, parce que...
Ouais, un peu tardif quand même.
C'est ça, tardif.
Trop tardif.
Bébé. Exactement.
Quand tu vois les derniers matchs, c'est trop tardif.
Peut-être que les bouteilles ont volé.
Voilà, cette fois-ci, les bouteilles ont volé, parce que voilà, c'est vrai que si vous n'avez pas fait d'émission là, sur les 4 dernières semaines, mais il y aura eu des choses à dire sur l'OM.
C'est clair,
Là, il y avait la saison qu'ils ont passée, force à eux. Mais en plus, l'histoire a été très belle que Rennes l'emporte, mais bon. Mais franchement, content quand même pour les Marseillais qu'ils arrivent à aller en Ligue Europa et à sauver un petit peu l'honneur avec cette saison qui était vraiment pas bonne. Rennes, qu'aurait pu espérer mieux parce que Francaise a fait de très bons taf.
Ouais, c'est clair.
Et il y a deux défaites à la fin qui te tuent la saison parce que avec Lyon et Marseille. Et Monaco et Strasbourg, de toute façon, match de fou, mais après, c'est deux équipes qui ont fait quand même une saison très décevante.
Ouais.
Notamment Monaco. Et après, le maintien, Auxerre, plutôt content de les revoir en Ligue 1, continuer de les voir en Ligue 1. Parce que c'est une équipe qui proposait quand même du jeu aussi, avec, Sinayoko, qui a pas triché alors qu'il avait failli être transféré. Pellissier qui a bien réussi à remaintenir cette équipe. On sentait que des fois ça manquait un peu de petits trucs, des fins de match un peu compliquées. Et après ils l'ont fait, donc bravo à eux. Et Nice, c'est juste la sanction des choix catastrophiques, d'un mercato catastrophique.
Et d'un niveau de jeu.
Est-ce qu'on pouvait
catastrophique aussi le niveau de jeu.
C'est ça. Est-ce qu'on pouvait plus être dans ce club, et qui est parti, et puis derrière tu prends Claude Puel, pourquoi, on sait pas.
Pour espérer le meilleur avec la belle histoire.
Un
peu comme Nantes qui prend coach Veid.
Ouais, ça a bien marché en tout cas. et du coup, Nice, c'est, je dirais pas le karma parce que c'est. Et puis pareil, en fait, parce qu'ils étaient quand même en bonne posture pour se maintenir. Ils gagnent 1-0 la semaine d'avant contre Auxerre, son concurrent direct, et ils prennent 2 buts.
Aucune victoire sur les 5 derniers matchs Nice.
Et je pense que tout le monde veut que Lens gagne la Coupe de France vendredi, parce que au-delà du fait de récompenser la saison lensoise, ça ferait un peu chier de voir une équipe
potentiellement Ligue 2.
En Europe.
Si on parle du barrage. Je pense que je vois plus Saint-Etienne s'imposer contre Nice que.
En tout cas, il y aura un vrai match pour le coup.
Ouais.
Je suis assez curieux de le voir, mais je pense que la Coupe de France ça fera pas un pli. Et après pour Nantes,
pareil, un décevant. Ça leur prend au nez depuis plusieurs années.
C'est ça. Et après, les supporters. Faut pas appeler ça des supporters. On saccageait le truc. Alors l'image elle est folle de coach Vaïd qui est en train d'être retenu par la sécurité parce qu'il va intervenir. Il a 74 ans quand même. C'est pas conseillé quand même. Donc Nantes quand même club
historique,
club voisin surtout.
Oui.
On aura plus de derby, mais on aura un autre derby. Il y aura Le Mans. Exactement. Donc on aura. Je crois d'ailleurs dans les 3 premières divisions, on aura quand même 5 clubs professionnels.
Oui.
Puisque du coup, la Roche est montée.
Ouais.
Laval, Ligue 2, Ligue 3.
Ouais.
Et Nantes et Le Mans et Angers. Une belle région, bien représentée, les Pays de la Loire.
C'est ça. Du coup, sur ce classement de Ligue 1, moi, je vous propose de revenir un peu sur les classements qu'on avait fait au début de la saison. T'étais pas encore là, Paul. C'était cet été. Il devait y avoir un match de jouer, peut-être deux. Je me rappelle plus bien.
Ouais, c'était en août. Fin août.
Ouais, c'est ça. Donc
il y avait, pour mémoire, Florian, Mathéo, toi, moi
Et Amaury.
Et Amaury.
C'est ça. Donc, on n'a pas le classement.
On avait fait
Mathéo.
Que ça de l'émission.
C'est ça.
On avait donné nos. C'était un peu long. À la fin, on était là.
Chacun son classement. Pourquoi je le mets là?
Ah ouais, vraiment. Donc, à la fin, on était là. Bon, on a accès, les gars. Ouais. On va pas arriver.
On a pas eu le temps de finir. Personnellement, j'avais bien placé le PSG en première position.
Comme tout le monde, je crois.
Je crois que ouais, c'était un sacré tapine. Metz dernier, je les avais. Après Toulouse, Brest, 10e et 12e, j'avais aussi, mais c'est pas des grandes victoires, quoi. Du ventre mou pour Toulouse et Brest.
Ouais, il faut. En fait, c'est des équipes
qui peuvent surprendre.
Tu les mets dans cette zone-là, mais tu peux pas savoir. C'est un peu au pif, quoi.
Ouais, c'est vraiment le ventre mou, quoi.
C'est ça. C'est le principe du ventre mou.
C'est ça.
Ouais. Et Toulouse, c'est vraiment des experts. Du
c'est la 10e place de Toulouse.
C'est ça.
Je suis sur celui de Florian qui nous a donc bien placé là aussi le PSG et Metz. Il avait aussi mal placé Nantes à 10e place. Je regarde un peu, je crois que c'est tout pour Florian qui avait vu Lens 5e. C'est lui qui les a mis plus haut. Moi j'avais mis Lens 11e. Okay. Pardon,
s'excuse.
Et enfin, Amaury, pareil, PSG, Metz, Nantes à la bonne position. Il avait vu le PFC très très grand, je me rappelle, il nous en avait fait les éloges un peu, il voyait ça comme il avait envie de voir ce derby parisien.
Ouais.
Très beau, il avait mis le PFC 5e, malheureusement non. Il avait mis Lille 3e, voilà.
C'est vrai,
ça de bon.
Alors,
ouais.
Alors là, moi j'aurais pas
Lille 3e. Et c'est tout.
Je donne moi, alors j'ai un exact. C'était assez difficile à trouver, c'était le PSG.
Ouais.
Et après le reste, Lyon, je pense que vous les voyez tous un peu bas. Ouais, et moi, Lyon. Je les avais mis 5e, donc ils font 4, c'est pas mal. Le top 4, je suis à côté de mes pompes, on va dire. Puisque j'avais mis Marseille, Monaco, Strasbourg. Bon, bah, autant te dire que c'est mort.
À peu près tous mis Marseille et Monaco dans le top 4.
Et Lens, j'avais mis quand même 7. Et au final, bon, ouais, ils font 2, hein, mais c'était pas si loin. Et j'avais mis Angers 15e, donc qui se sauvait directement. Okay. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt raccord. Et j'avais mis Nantes barragiste et Metz 17e. Donc voilà.
Ok.
Ça vaut ce que ça vaut, hein.
Florian avait mis Angers 14e. C'est lui qui était le plus proche. Moi et Amaury, on les avait mis barragiste. Et je pense celui qui nous a le plus surpris, qui finit le plus loin pour son monde, c'est Nice.
Ouais. Moi j'avais mis 9, je crois.
Ouais, ça, moi j'avais mis 8, Florian les avait mis 9 aussi, et 7 pour Amaury.
Ouais.
Ouais, vraiment dégringolade des Niçois, on l'a senti quand même que c'était clairement inattendu. Pareil pour Monaco, Strasbourg, enfin surtout Monaco qu'on n'attendait pas, enfin qu'on voyait beaucoup plus grand avec le Mercato. Finalement, Paul Pogba n'a très peu joué.
Fati n'a pas fait grand-chose non plus.
Voilà, il finit avec plus de buts que Ousmane Dembélé, mais bon.
Ça, c'est autre chose.
il jouera peut-être la Coupe du Monde d'ailleurs avec la blessure de Fermín López.
Ah oui.
Ouais, c'est ce que j'entends dire. Ça vaut ce que ça vaut. Après, c'est que des rumeurs. Hein. On verra bien par qui sera remplacé Fermín
López. C'est pas poste par poste. C'est pour ça que c'est un peu étonnant.
Non, c'est pour ça. Bon, on verra bien ce qui se passe. Après, tu vois, pour Fermín, Fermín n'est pas un poste exact
oui,
non plus.
Vrai.
À Barcelone,
c'est Fermín.
Parfois, il joue à gauche. Parfois, il joue émossé. Parfois,
il est là où il faut.
C'est ça.
Il faut.
C'est la petite teigne qui bouge partout. Donc, on verra bien si Ansu Fati jouera la Coupe du Monde avec l'Espagne ou non. Et puis, sinon, quelque chose dont on n'a pas parlé sur cette saison de Ligue 1, c'est Esteban Le Poll, meilleur buteur.
Voilà
21
c'est
buts.
C'est exceptionnel, ça.
Il finit meilleur buteur
de Ligue 1. Il a commencé la saison avec nous. Ouais, c'est un angevin.
Un but,
il marque un but avec le SCO.
C'est un angevin.
Il marque un but avec le SCO. Deux contre le SCO.
Ouais.
Au moins un. Voilà.
Le match direct.
Ah non, le match retour, c'est Altamari et le petit jeune Loyer.
Ok. Je sais pas. Mais
un petit jeune qui marque contre son camp.
Louer.
Alors s'il y avait hors jeu.
Marius.
Voilà, c'est ça, ouais.
Mais oui, du coup, c'est mal le Paul meilleur buteur.
Un ange.
Voilà, pour sa deuxième saison seulement en Ligue.
Comme quoi, il est valet, par contre, son.
Ah oui, il est valet.
Ouais, tout à fait.
Il est valet, alors.
Il est plus que les valets, je pense que.
Alors que nous, on était là en émission, on disait à Chaban, fais monter les enchères, là. Mais il va jamais partir comme ça. Et au final, il part, c'est combien, 20
13 plus 3 millions de bonus.
Ouais. Ah ouais, donc final, il part pour 15, on s'est dit, bon.
Ouais, ça, c'est
bien chez on aurait dû le garder.
Il a encore pris de la valeur.
Peut-être qu'on aura joué l'Europe, hein, si tu restes.
On y croyait, hein, pendant une partie de la saison, j'annonçais les points du SCO et les points des places européennes.
Bon, c'est vite arrêté en janvier.
quand on a descendu en dessous de la 10e place, on s'est arrêté. Mais voilà, Esteban Le Poll dans les débats pour l'équipe de France même.
Ah oui,
qui bah, aurait parié dessus
un an plus tôt,
ça quand il était aux Herbiers. C'était aux Herbiers qui était
Épinal. Non,
Épinal, pardon. Oui, les Herbiers. Enfin bref.
Non, pas les Herbiers.
Mais ouais, du coup, bah, Esteban Le Poll, très belle saison ouais. dans les débats équipe de France. Peut-être qu'on le verra dans les prochaines années sélectionné en bleu. Ce serait beau. Ouais. Je sais pas si j'ai pas du tout la stat de combien d'Angevins ont été sélectionnés en bleu.
Ouais, je veux repasser par Angers. Très peu. Honnêtement,
très
peu, je n'ai pas de tête là.
J'en peux pas.
J'en ai zéro. À la limite, en espoir à rigueur,
ouais.
On doit avoir Mohamed Ali Chaud, ouais, Baoya.
Mohamed Elaïd aussi.
Il est sélectionné en espoir.
Voilà, t'as en espoir, oui, mais après, bon.
Espoir, il y a beaucoup d'espoir à chaque fois, tu voyais, ouais, ouais. Il était convoqué avec les espoirs, par contre, jamais. Mmh.
Non, bah, nos meilleurs joueurs sur les dernières années, c'était plutôt des joueurs africains. Ouais, ça, donc, Toko Ekambi, Pépé.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, bravo Esteban Le Poll.
C'est vrai qu'Appel aurait pu quand même prétendre à une place.
Peut-être.
Quand même.
En 2016, peut-être.
voilà, pour ce qui est de la Ligue 1, du coup, une saison remplie de rebondissements qui nous aurait fait vibrer. Et maintenant, bah, place au barrage entre Nice et Saint-Etienne. J'ai pas la date en tête.
C'est le 26 et 29.
26 et 29.
C'est mardi prochain et après le vendredi d'après, je crois.
Ouais. Ouais, voilà. Bah, on verra ça. On verra qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et on va continuer avec toi, Paul, et le football encore, il me semble.
On peut parler un peu de la finale de Ligue Europa aussi,
ouais, où
tu parles de football, avec entre Fribourg et Aston Villa à Istanbul. C'est demain soir, donc si vous avez un petit pronostic, messieurs, c'est le moment.
On va être dans l'évidence, Aston Villa, je pense.
Moi, j'aime pas Emilio Martinez, donc je vais dire Fribourg.
Ah, ok. Bah, je peux comprendre.
Voilà.
Je crois qu'il joue pas.
Si.
Il fait titulaire maintenant.
Oui, je pense pour les gros matchs comme ça, quand même.
Ok.
Ouais, voilà.
Non, je pense Villa quand même, par rapport à continuité.
Oui, même. Oui, ouais. Bah, et puis Unai Emery, ça compète, quoi. Il l'a gagné 5 fois.
Ouais, 5 fois.
4 fois, je crois, les finales, une fois.
Il peut la gagner avec 3 clubs différents. Bon, c'est sa compète. Donc, il va la gagner.
Faut lui laisser. Et du coup, bah, on peut parler de Giro ensuite.
Tout à fait.
Du coup, avec le premier retour de la saison qui a débuté il y a 12 jours, un grand départ du coup qui s'est fait en Bulgarie. Un Français s'est illustré sur les terres bulgares, Paul Magnier, avec 2 victoires d'étape. Il a notamment porté le maillot rose pendant une étape et il a du coup le maillot de meilleur sprinter depuis la première étape. Mais depuis l'arrivée sur le sol italien, Adam Domine, Jonas Vingegaard, vainqueur au bloco sur la 7e étape, puis de nouveau lors de la 9e étape, le Danois impressionne. Pourtant, le grandissime favori de cette 109e édition n'est pas leader du classement général. En effet, contre toute attente, c'est Alfonso Eulalio qui occupe actuellement la première place avec 27 secondes d'avance sur le coureur danois. On peut alors penser que son maillot ne tient qu'à un fil et que Jonas Vingegaard pourrait reprendre les commandes de la course dans les prochains jours. Est-ce que vous suivez un peu ce premier grand tour ou pas trop?
Pas vraiment. Je suis pas très bon chez cyclisme, malheureusement.
Ouais. On va se réveiller pour le tour quand même, voilà, parce qu'il y a Paul, mais Paul Sexas. Mais après, j'avoue que je suis pas un
Ok. Non,
de même. J'ai vu que le Français avait gagné des étapes, mais ça s'arrête là. Parce que j'ai mes notifs West France. Mais sinon, toi, tu penses quoi de ce tour quand même?
Là, il va être un peu plus ennuyeux que l'année dernière, par exemple, où c'était jusqu'à la dernière étape assez intéressant avec Del Toro, Yates et Carapaz, où cette année, il n'y a que Vingegaard qui sort du lot. Il y a Félix Gall qui risque un peu de l'embêter, mais vu la montagne, là, il a perdu quoi, je crois, 1 minute 30 aujourd'hui sur le chrono. Donc, je pense qu'il va écraser la concurrence et il va même être tranquille, je pense, à lui faire un bon échauffement pour le tour et pour essayer de titiller un peu le grand Poggi.
Voilà, bon, on suivra ça du coup de plus ou moins loin. mais on en reparlera si évidemment Mathéo, je suis sûr qu'il suit, Robin aussi. On pourra en reparler dans les prochaines émissions. En attendant évidemment le Tour de France et Paul Sexas, comme tu le disais. Et moi, je vais passer outre-Atlantique. Déjà, est-ce que vous suivez un peu les playoffs?
Ça prend tellement l'actu. T'as regardé du coup le match hier?
J'ai regardé la fin. J'ai eu de la chance, je me suis réveillé aux alentours de 5h, du match.
Parfait.
Bénef. Parce que du coup, c'est les finales NBA en ce moment. Et on a déjà eu le droit à un match d'anthologie entre les Spurs et OKC. On avait vu, au vu des affrontements en saison régulière, que ces deux équipes allaient nous proposer du beau spectacle. Et on n'a pas été déçus. Au début du match, Shai Gilgeous-Alexander reçoit son trophée de MVP devant les yeux de Wemby, frustré de ne finir que troisième de cette course. Il l'a dit, ce match était personnel pour lui. Il a sorti une perf monumentale avec 41 points, 24 rebonds et 3 contre. C'est le deuxième joueur des Spurs à faire une stat pareille dans un match de playoff derrière David Robinson. Avec des paniers clutch pendant les deux prolongations, notamment un tir depuis le logo dans les dernières secondes permettant à San Antonio de recoller au score, qui nous a fait penser au double bang de Stephen Curry. Pour les plus aguerris, vous l'avez. Finalement, ce sont bien les Spurs qui s'imposent sur ce premier match et mènent 1-0 dans la série. Ils reprennent l'avantage du terrain et on peut espérer une victoire. Personnellement, je le vois aller en match 7. Ça va être une série vraiment dingue, peut-être une des plus belles de ces 10 dernières années, quelque chose comme ça. 10 dernières, peut-être pas, j'abuse, mais pas loin, franchement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, rapidement, de l'essor de Victor Wembanyama, ce que vous pouvez en voir depuis le début des playoffs.
Bah c'est assez énorme parce que c'est ses premiers déjà, et puis bah parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se rend compte que là ce que les gens annonçaient, enfin les experts du basket annonçaient, c'est qu'on a un géant qui sait faire du basket, qui sait très bien faire du basket. Donc en fait c'est un cheat code, tu vois les actions, en fait il est plus grand que tout le monde. Donc en fait tu marques beaucoup plus de points et voilà. Donc en fait on est en train de voir que c'est d'être un cheat code complet pour les Spurs. Donc franchement tant mieux pour Victor, hein. C'est en train de devenir
un
monstre.
Bah c'est comme tu l'as dit, un alien, hein. J'ai envie de te dire que quand tu vois quand il défend, les bâches qu'il fait devant l'arceau, là tu te dis mais en fait le mec il est trop fort en défense, derrière il t'envoie comme tu dis un panier en 3 points du milieu de terrain pour sauver la fin de match. Donc non il est énorme, c'est quand même le meilleur joueur des playoffs, je pense, quand même actuellement, pour les prestations qui sort. On pourra enlever le coup de coude, je pense, qui vient un peu ternir l'image, mais non il fait des playoffs incroyables et j'espère que les Spurs iront au moins en finale finale et potentiellement une belle victoire.
Pour ça faudra affronter donc soit les Knicks, soit les Cavs. C'est la finale de l'autre côté. Cleveland, tombeur des Pistons, pourtant premier de leur conférence, mais qui avait déjà galéré contre Orlando au premier tour. Ils ont été défaits en 7 matchs. Cette fois, ils n'ont pas pu y échapper et Donovan Mitchell a réussi à leader son équipe en finale. De l'autre côté, les Knicks, ça fera plaisir à Paulin qui en est un grand fan. Tombeurs de Philadelphie assez facilement, ont eu plus de temps pour se reposer et aborder cette finale avec une plus grande sérénité. Je pense que peu de gens avaient parié sur cette finale de conférence à l'Est. La plupart des gens voyaient surtout les Celtics aller loin avec le retour de Jason Tatum. Mais malheureusement, ils se sont fait sortir dès le premier tour par Philadelphie. Évidemment, les Pistons qui avaient fini premier, qui étaient en bonne forme et qui étaient très bons sur cette saison régulière, avec notamment Kate Cunningham qui était dans la discussion au MVP lui aussi. De mon côté, je vois un avantage quand même pour les Knicks, ce qui fera plaisir à Paulin. Voilà, c'est ce que j'avais marqué, mais je l'ai déjà dit. Le facteur X de cette série, ce sera à mon avis James Harden. En fonction du niveau de jeu qu'il va aborder, qu'est-ce que tu veux dire,
Alex ?
J'ai
une question pour toi. Ils ont fait quoi, les Raptors, cette année ?
Les Raptors, ils ont joué contre Cleveland, premier tour de play-off.
Ok.
Ils ont fait sortir en match 7.
Donc ça va, ça a joué. Honneur.
Franchement, je m'y attendais pas.
Parce que en fait, j'ai l'impression que chaque année, les Raptors, c'est pas. Ouais, depuis que t'es là, en tout cas, c'est pas dingue.
Non, ça descend de moins en moins bien. Il y a eu la finale de 2019, et après, depuis le départ de Kawhi, tout le monde est un peu parti de cette équipe. Mais il y a des tours de draft qui se font, des jeunes joueurs qui arrivent, du bon recrutement, sachant que là, il manquait quand même deux joueurs importants à Toronto, qui sont Brandon Ingram et Emmanuel Quickly. Donc, qui n'était pas là pour jouer ce tour de playoff. C'est quand même aller en Game 7 contre les Cavs, c'était une belle perf. Et surtout, je sais pas si t'as peut-être pas vu l'image du coup de RJ Barrett qui met un buzzer. En fait, il tire, je sais pas si tu te rappelles du tir de Kawhi Leonard en 2019 pendant les finales sur.
J'ai pas toutes ces refs.
Ça tire sur l'anneau, ça retombe 4 fois sur l'anneau et ça rentre.
Okay.
Et là, un peu il pareil, même, c'est le tir à 3 points pile en face du panier qui tombe contre le fond de l'anneau. Qui remonte, on le voit même plus à la caméra.
Ah oui, d'accord.
Et qui retombe dedans au buzzer.
Ah
c'était vraiment une image fou pour aller justement en match 7. C'était à Toronto, donc c'était un très très beau match qui m'a fait plaisir. En plus, je les suis un peu moins parce que le jeu proposé est un peu moins beau et je me focalise plus sur les beaux matchs, surtout que Toronto est pas tout le temps diffusé parce que pareil les droits, enfin les ouais, les les droits télé en NBA, ça devient un peu bizarre maintenant. En France, c'est partagé entre Bein Sport, Prime Video. Ouais, ouais. On sait plus trop où donner de la tête. Et le League Pass, évidemment, parce que ces deux chaînes n'ont pas tous les matchs non plus. Donc, c'est un peu compliqué de regarder Toronto, qui est pas une équipe hype, donc qui est pas trop diffusée. Ouais, voilà. Mais non, bonne saison, franchement, okay. Toronto.
Moi, qui à la base voulais chambrer, au final,
non,
ça va.
Voilà. Non, tout va bien. On s'en sort pas mal. Pas de tour de draft intéressant, par contre. Mais à voir, parce qu'on peut parler de la draft rapidement. C'est vrai que la loterie a eu lieu pendant ce mois de pause de Génération Sport, et c'est les Warriors, pas du tout, c'est les Washington Wizards, équipe de Alexandre Sarr et Bilal Koulibaly, deux joueurs français qui ont récupéré le premier tour de draft. Il y a peut-être un vrai projet qui commence à se faire du côté de cette équipe qui avait beaucoup de mal. À l'époque, c'était John Wall et Bradley Beal qui menaient ça, mais ils sont partis depuis un certain temps. Maintenant, il y a Trae Young. Ça vous dit peut-être quelque chose.
Il n'est plus à Atlanta ?
Non, il n'est plus à Atlanta. Il a bougé, justement. Il en avait marre de Atlanta. Okay. Il voulait un projet un peu plus palpitant. Donc, il est à côté de jeunes comme Alexandre Sarr et Bilal Koulibaly. Ouais. Il me semble qu'ils n'ont pas joué encore, parce que Trae Young est donc blessé. Cette saison, en fin de saison, il n'a pas pu jouer un seul match. Il y a aussi Anthony Davis qui est arrivé.
Pas mal.
Voilà,
c'est vrai. C'est un vrai.
Voilà, c'est ça. Après, il y a des chances qu'Anthony Davis bouge. Cet été, c'est lui pas ses objectifs de jouer à Washington, mais avec un premier tour de draft intéressant, on n'aura pas trop de Français dans le haut de la draft cette année, mais il y a quand même des joueurs américains très très intéressants qu'on a pu suivre pendant la March Madness. Vous l'avez sûrement suivi, j'en doute
évidemment.
Pas. J'en doute pas.
Pas du tout.
mais ouais, non, du côté des Wizards, il y a quelque chose de très intéressant à faire, ce qu'on se rappelle, hein, Anthony Davis qui était tradé contre Luka Doncic. Trader contre Luka Doncic ce trade qui avait fait beaucoup parler, justement cette grande erreur du directeur sportif des Mavs, qui avait ensuite par chance récupéré le premier tour de draft, mais qui s'est fait virer quand même dans la foulée, parce que c'était un trade catastrophique, surtout que Luka Doncic est très performant, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a été un peu blessé cette saison, il a pas pu jouer les playoffs, mais pour ce qui est de la draft à peu près, 20h52. Est-ce que on a d'autres sujets à aborder? On peut peut-être parler rapidement de Ligue des Champions, parce que pareil, je crois que en ce mois d'émission, on n'a pas pu en parler.
De la demi-finale, je m'en rappelle, on avait fait l'émission avant la demi.
Donc, la demi-allée.
La demi-allée.
Ah, du coup, vous n'avez pas parlé du 5-4, quoi.
Non, voilà,
match,
c'est ça.
Pas, ouais, match de l'année. Fou, ouais. Non, on n'en a pas parlé du coup. Ouais.
Voilà, donc la finale qui aura lieu le 30 mai.
18h.
18h, oui, faut se rappeler, faudra être à l'heure, faudra pas allumer la télé à 21h,
oui,
vous aurez tout loupé. être là à 18h, cette finale PSG Arsenal, le PSG qui s'est défait du Bayern sur les matchs aller-retour, c'était, j'imagine que vous les avez vus tous les deux, ouais. C'était peut-être une des plus grandes demi-finales de Ligue des Champions de ces derniers temps.
Bah ouais, en tout cas sur le match aller, ouais. Oui, c'est un des meilleurs matchs aller, c'est fou. C'était dingue, un match hyper kiffant, avec des individualités excellentes, des buts de dingue. Enfin, celui de Luis Diaz, il est
exceptionnel.
Fou, en fait. Le gars a fait un contrôle exceptionnel. Non, franchement, c'était un match très kiffant, le 5-4. Et puis en plus, pour le coup, contrairement à ce que disent pas mal de gens, je trouve pas que les défenses aient été si mauvaises que ça, pour le coup. Je pense que c'est simplement les attaquants qui ont été exceptionnels. Parce qu'au final, je crois que le PSG n'a que 5 tirs cadrés.
Oui, c'est ça.
Je crois
qu'il
y a un truc comme ça. Donc en fait, Upamecano fait pas un mauvais match. À un moment donné, il gagne un duel, tout.
Mais un but même.
Oui, mais surtout un but. Et donc ouais, non, franchement, match de dingue. C'était un grand kiff. En étant neutre, en plus, c'était. Enfin, tu vois, tu prends ton pied quand même, tu vois. Donc rien à dire. C'était incroyable. La demi-retour un peu plus décevante. Forcément, on était habitué à du luxe. Mais puis quand on voit aussi l'autre demi-finale,
ça va en fait,
tu dis ça va.
On s'y attendait un peu quand même, c'est un peu le jour et la nuit entre le Atlético Arsenal et le PSG Bayern.
Ouais, pourtant quand tu regardes la seconde mi-temps entre Atlético et Arsenal est quand même intéressante d'un point de vue de l'Atlético qui quand même proposait un beau jeu.
L'aller-retour.
Ouais, match retour, c'était.
Mais match retour, c'était très compliqué.
C'est dur.
C'était dur à regarder.
Les choix de Simeone à la 60e minute, c'est quand même catastrophique de sortir trois joueurs de la 60e minute, surtout quand tu fais sortir Lookman et Alvarez à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est étrange. Du coup, ça a pas payé. Hein, voilà. Pour l'Atlético qui a tout donné contre le Barça, mais pas contre Arsenal.
Bizarrement.
Ça a un peu les boules aussi.
Non, pas du tout.
Oh, ça va.
C'est pas mon genre.
Barça, le rouge, tu l'as encore un peu en train de la gorge,
ouais, ou peut-être.
Évidemment. Ouais.
Encore une fois.
Voilà, encore une fois, un carton rouge dans des grands matchs pour Barcelone.
C'est dommage.
Ouais, c'est dommage. On s'en
fait beaucoup d'années de suite.
Ouais, voilà.
Pas de ses erreurs encore.
Ouais, non. Barcelone peut s'en vouloir, clairement, d'avoir le choc comme ça. Heureusement, ils ont rattrapé avec la Liga, qui était quand même assez facilement acquise. Sur un classico, ça fait quand même toujours plaisir.
Ah, bah oui,
ouais, voilà, en tout cas, on suivra évidemment cette finale. Un petit pronostic peut-être pour la finale?
Paris quand même.
Paris?
Ouais.
Un score?
3-1.
3-1.
Okay. Ouais.
Moi, je vais dire. Je vais dire 1-0 Paris. Mm. Parce que souvent, on a eu des deux. Enfin, une finale avec 1-0. Pas l'année dernière, mais les autres années.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais dire hold-up d'Arsenal, 1-0.
Je le sens s'il venir. Je ne vais pas aller dessus, mais je le sens s'il venir.
Je l'espère pas, hein, mais.
Ouais, pareil.
Mais attention.
Je suis pas.
Parce qu'il faut que quelqu'un le dise, du coup, je le dis.
C'est ça, voilà.
Ouais, non, mais t'as qu'une attitude contre tout le monde.
Mais ouais, parce que je suis pas pro-PSG à fond, mais il le mérite. Il mérite la Ligue des Champions par rapport à Arsenal. Oui. Mais je sens un peu le petit hold-up de Saka là, qui met une petite frappe et derrière ça met le bus pendant 80 minutes. Bah, ça sent ça. Après,
capable de le faire surtout.
Le problème, c'est que PSG, ils peuvent déverrouiller n'importe quelle défense.
Ouais, ça. Mais après, Arsenal peut verrouiller n'importe quelle attaque, j'ai l'impression aussi.
Bah, ce sera le débat. Hein.
Ouais,
c'est pour ça que je te dis que je pense que ce sera à 1-0, il n'y aura pas beaucoup de buts.
Mmh, on verra, je suis assez d'accord avec ça.
Parce que même si Paris marque, Arsenal remettra pareil, enfin restera défensif pour pas en prendre plus. Parce que ça, ils ont vu aussi le match l'année dernière.
Ouais, c'est ça.
Ils ont pris 5, quand même, les interistes.
Donc ce sera un match fermé, enfin non, pas forcément fermé, mais ce sera un match sans beaucoup de buts.
Ouais,
mais on peut voir quand même sûrement des offensives régulières du PSG.
Ouais, parmi après, je pense aux 4 centraux, c'est parmi les meilleurs du monde. Donc,
oui. 4 centraux des deux équipes.
Ouais, t'enlèves Marquinhos, c'est peut-être, peut-être les 3 des 5 meilleurs. Top 3, on peut le dire quand même, c'est bien ça.
Donc, et puis les gardiens, bon, ça va.
Oui,
c'est pas dégueu.
Avec peut-être Lucas Chevalier titulaire. On y croit.
Je pense pas.
Bizarre.
Je pense qu'il a autant de chance que Salvatore Sirigu. Donc, on va éviter.
Ou le Tellier, peut-être.
Oui, le Tellier.
On sait jamais.
On revient toujours au SCO. Ça, c'est la boucle est bouclée.
C'est ça. Super. Parfait. Pour finir cette émission, on revient sur le Tellier, grand joueur du SCO.
Grand
joueur de Paris. Moins grand à Paris, mais.
Troisième gardien
de 2 mètres quand même, donc il est quand même très grand.
Oui, tout à fait, c'était dans ce sens-là que j'en parlais évidemment. Bon, 20h57, on va se laisser, on va se dire à la semaine prochaine et on vous laisse, il me semble qu'il n'y a si c'est une émission après, c'est un autre regard pour poursuivre votre soirée.